France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet Campagne, bonjour. Toujours dans le Val-d'Oise cette semaine avec un collectif d'habitants de Cergy-Pontoise qui se mobilise pour la sobriété énergétique et la production d'énergie renouvelable sous le nom de OWAT et qui lance un sacré défi d'énergie partagée entre 13 communes de la communauté d'agglomération, soit 200 000 habitants. Sylvie Leduc sera notre guide à cette occasion, mais tout de suite, place à Thérapie, ou comment cette petite entreprise intervient dans la création de jardins thérapeutiques.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Stéphanie Persson, bonjour.
Bonjour.
Avec Laure, vous avez décidé de créer, depuis Saint-Germain-en-Laye, Terre Happy, avec une déclinaison qu'on trouve assez souvent aujourd'hui. Il y a Happy Days, les journées de l'apiculture avec l'UNAF. Une Terre Happy, parce qu'on comprend que par la terre, et entre autres le jardin, on peut créer des activités qui ont une valeur thérapeutique.
Exactement. Nous sommes effectivement spécialisés dans les jardins thérapeutiques, même si nous préférons parler de jardins de soins. Mmh. Et nous sommes basés effectivement à Saint-Germain-en-Laye, mais nous travaillons énormément dans le Val d'Oise, puisque nos premières expérimentations de jardins thérapeutiques se sont faites dans le Val d'Oise.
Mmh. Voilà. Ça peut ressembler à quoi un jardin thérapeutique ?
Alors un jardin thérapeutique, ça va être un jardin qui va d'abord être adapté aux personnes qui vont en bénéficier. Nous œuvrons pour améliorer le bien-être et la santé de personnes fragilisées par l'âge, la maladie, le handicap. Et donc en fonction des profils et des besoins des personnes, nous allons leur permettre d'accéder à un jardin. Et puis dans ce jardin, nous allons faire rentrer le plus de nature possible, parce que c'est cette reconnexion, ce contact avec la nature qui va par plein de phénomènes, hein, mais notamment toutes les stimulations douce, et ça je pense qu'on peut tous le comprendre. Donc le fait de se sentir bien, d'être à l'aise, et ensuite voilà, les mettre en contact avec la nature. Mmh. Et puis pouvoir aussi leur permettre d'avoir des activités dans ce jardin. Il faut qu'il s'y passe constamment des choses pour leur donner envie d'y retourner, et puis pour augmenter tous les bénéfices en fait de ce jardin. Et donc là on va parler plus spécifiquement d'ortithérapie et d'ortithérapeute, donc de professionnels du soin qui vont être formés à l'utilisation du jardin.
Donc ce ne sont pas nécessairement des jardins d'ornementation, je crois comme on dit, ce sont des jardins de production aussi et de production maraîchère.
Alors en fait, c'est des jardins dans lesquels vraiment il va y avoir de la vie. Mmh. Et du mouvement, du changement qui va se faire, si possible, au quotidien, mais aussi chaque mois, et qui vont marquer les saisons. Parce que c'est vrai que nous, on travaille beaucoup aussi avec des personnes âgées, donc qui ont perdu certains repères. Donc c'est vrai que nous, on va essayer, par les plantes et par les activités, de leur redonner tous ces repères temporels.
Mmh. Alors, avec Laure, qui est écologue, vous êtes diplômée en agriculture urbaine, vous faites un travail aussi de paysagiste d'une certaine manière.
On fait un travail de paysagiste, mais il faut que ce soit comme à la maison. Donc en fait, on va avoir une co-conception avec les personnes qui vont bénéficier du jardin, dans la mesure du possible, parce que c'est vrai que des fois, c'est très difficile de dialoguer avec elles quand il y a des démences, type Alzheimer, mais dans ces cas-là, on va se référer aux familles, on va se référer aux soignants, et donc il faut que les jardins leur parlent, il faut qu'elles se sentent bien, donc on va mener des enquêtes pour permettre que le jardin soit un jardin comme on a à la maison.
Et vous dites thérapie, Stéphanie, est une entreprise solidaire.
Oui, nous sommes une entreprise à vocation sociale, nous avons une mission sociale. C'est ce constat en fait d'un besoin de pouvoir reconnecter les personnes à la société et à la nature. Et c'est en partant de ce besoin qu'on a créé la société. Donc c'est vrai que notre mission première, c'est de pouvoir répondre à ce besoin social.
Mais comment vous organisez, parce que vous concevez le jardin? Et vous l'animez aussi?
Alors oui, on fait effectivement plusieurs choses pour pouvoir répondre au mieux en fait aux besoins. Donc on a ce travail de conception. On va réaliser, parce que c'est pas toujours évident, c'est même presque impossible pour les soignants de pouvoir libérer du temps pour pouvoir mettre la main à la pâte. Et puis ensuite, on va former les soignants à l'ortithérapie, puisque c'est lui le thérapeute. Donc on va l'accompagner de manière à le rendre autonome dans l'utilisation du jardin et dans cette utilisation thérapeutique.
Et donc, illustration dans le Val-d'Oise, l'aménagement du Jardin des Possibles dans le parc de l'abbaye de Maubuisson.
Alors, ce Jardin des Possibles, l'objectif, c'était, en dehors d'une structure de soins, de créer un jardin sur un lieu public. Et donc, on va pouvoir faire venir dans ce jardin des publics aux profils très différents. Donc là, nous allons avoir des personnes handicapées de tout âge, des personnes âgées, des enfants qui sont hébergés dans des foyers d'accueil. Nous allons aussi avoir des personnes en soins longue durée et puis aussi des personnes en situation d'isolement qui sont détectées par les services sociaux. Voilà, donc là, on fait un travail vraiment en lien avec le conseil départemental et puis l'abbaye de Maubuisson qui nous aide beaucoup. Et donc voilà, depuis 2 ans, on fait évoluer ce jardin puisque ce jardin, en fait, il est construit avec les personnes qui viennent ajouter leur petite touche personnelle, en fait. Donc c'est un jardin qui a l'image, en fait, des personnes qui y viennent.
J'éviterai de dire que Stéphanie, personne n'est vraiment quelqu'un.
Merci.
Parce que c'est facile, mais vous êtes impressionnante d'efficacité. Thérapie.fr, il y a une page Facebook, et vous allez découvrir par la même occasion, donc, l'artithérapie avec cette belle entreprise solidaire. Merci Stéphanie.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Donc nous voici maintenant informés de l'ortithérapie. C'est dans un esprit analogue qu'est née en juin 2018 une association suite à une volonté municipale d'élus de Vauréal d'offrir aux habitants un espace de bien-être. Il s'appelle Couleur Zen. Ici, pas de médecine parallèle, mais des techniques de détente comme la sophrologie qui se définit par un entraînement du corps et de l'esprit pour développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Je ne fais que citer la définition qu'on trouve facilement maintenant dans les dictionnaires, avec des séances aussi collectives de Qigong ou d'anti-gymnastique, point d'interrogation. Sur ce dernier concept, mieux qu'une grande explication qui risquerait de devenir confuse avec moi, tout le contraire d'ailleurs de cette technique, je vous renvoie au site officiel de l'anti-gymnastique. Je peux vous dire quand même que cette méthode globale de gymnastique douce a été mise au point dans les années 70 par une kinésithérapeute française qui souhaitait rompre avec l'approche traditionnelle du corps pour aller vers une conception globale de celui-ci. Le site dédié d'ailleurs à cet anti-gymnastique, c'est tout simplement antigymnastique.com ou .fr. Donc depuis plus d'un an, une équipe de praticiens, une praticienne dont Laurence, notre correspondante, propose des séances collectives et des ateliers à tous les publics, car il nous semble indispensable, écrit-elle, de rendre accessibles toutes les techniques qui permettent à chacun de grandir dans les meilleures conditions. Par ailleurs, l'association organise des manifestations en partenariat à nouveau avec la commune de Vauréal, comme récemment la projection du film documentaire Régénération, suivi d'un débat avec son réalisateur. Vous allez trouver un lien avec Couleur Zen à nos pages d'émission. Sylvie Leduc, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On parle très souvent des énergies citoyennes, des bonnes volontés, vous en êtes l'incarnation, avec votre mari Patrick et des habitants de Cergy-Pontoise. Vous vous êtes engagé dans un processus de développement d'énergie renouvelable avec votre collectif Owatt Citoyen, voilà. Parce qu'il y a eu une prise de conscience chez vous.
Oh oui, bon là, elle est de longue date, effectivement, mais ce qu'on trouve important, c'est d'avoir son mot à dire dans la transition énergétique. Donc on peut l'avoir sur l'alimentation, sur l'habitat, etc. Mais on peut aussi maintenant l'avoir sur l'énergie. Et on trouve que c'est très important de relocaliser l'énergie pour des raisons environnementales, parce que c'est moins de pertes en ligne si l'électricité est produite à côté de chez nous. C'est une façon aussi de rendre les citoyens responsable de ce qu'il consomme, parce que quand on produit, on est conscient de ce qu'on consomme. Et quand on est conscient de ce qu'on consomme, on se dit bah peut-être qu'on pourrait réduire. Et puis du coup, on se penche aussi sur le scénario mégawatt, qui est un scénario super intéressant, qui nous propose des solutions pour la transition énergétique. Donc voilà, c'est une globalité en fait.
Comment édifier un collectif comme le vôtre en touchant des collectivités nombreuses? La communauté d'agglo de Cergy, c'est 13 communes, 200 000 habitants. Et c'est pas la même chose qu'un contact qu'on va faire dans le Lot ou le Lot-et-Garonne dans une commune de 2000 habitants.
Non. C'est sûr que c'est différent parce que, effectivement, on est très nombreux, donc ça peut être une force. C'est un peu différent parce qu'on se connaît moins. Mais c'est aussi, on va s'appuyer sur le réseau des associations existantes, sur les coopératives existantes, sur les militants qui agissent sur le terrain depuis longtemps. Et puis là, c'est un partenariat qui va se faire avec les collectivités. On est en train de rencontrer toutes les 13 mairies de la communauté d'agglo. On va travailler aussi avec peut-être le conseil général. Enfin, c'est un partenariat avec les institutions, parce que des projets comme ça, citoyens, se construisent avec les institutions.
Bien sûr.
on est des soutiens, des apports. Nous, on leur apporte la logistique, on leur apporte notre énergie, nos connaissances, et on leur apporte l'épargne citoyenne. Donc,
Sylvie, excusez-moi, c'est pas pour dénoncer une inertie des collectivités, des élus, mais vous leur apportez tout.
Oui, mais enfin, on a besoin d'eux et aussi parce que eux vont pouvoir nous mettre à disposition peut-être des toitures. Mmh. Nous, on est en milieu urbain, donc on va partir sur du photovoltaïque. Oui. Donc avec des toitures que les communes vont pouvoir nous proposer, entre 200 et 600 mètres carrés, c'est l'idéal pour commencer. Ils sont aussi une force d'information. Ils peuvent relayer notre démarche auprès des habitants. Mmh. Ça donne confiance dans les projets quand les institutions sont avec nous. Il y a du donnant-donnant. On sait qu'elles sont pas très très riches, les communes, hein. Elles sont donc, et puis, on se dit que plutôt que notre épargne dorme dans les banques où en plus, elle n'est pas forcément utilisée à bon escient. En tout cas, si on en était conscient, on serait peut-être pas satisfait de la façon dont c'est utilisé.
Exact.
Et on sait que cette épargne, elle est quand même importante chez les Français. Donc, plutôt que de l'immobiliser inutilement, on se disait que peut-être c'est plus utile de mettre dans la transition énergétique. C'est pour ça qu'on pense rendre tous les citoyens actionnaires en créant la coopérative qui va collecter les fonds qui vont permettre de mettre en place ces toitures. Mmh. L'association est créée et on est en train de passer à la phase structure juridique, fonds d'investissement.
Alors, quelle forme vous allez prendre? Quel statut vous allez prendre?
Alors, c'est une discussion qui est en cours, mais la plupart du temps, c'est des SAS. Oui. En fait, on travaille avec une structure dont vous parlez souvent et qui s'appelle Énergie Partagée.
Absolument.
Elle aide les projets comme les nôtres à se structurer. En fait, en région Île-de-France, il y a en ce moment une ouverture pour que les projets comme ça prennent forme. C'est-à-dire qu'il y a un financement pour l'étude de faisabilité de ces projets qui a été voté. Donc, dans certains départements de la Couronne et même dans Paris même, il y a des collectifs comme ça qui se sont montés. Nous sommes le premier sur le Val d'Oise. Et donc, grâce à Énergie Partagée, il y a une fédération des énergies, des connaissances, des contacts. Il y a des formations pour toutes les personnes des groupes, il y a des bonnes adresses pour trouver le bon contact au bon moment. Et du coup, on est en train de travailler aussi sur la réflexion juridique. Quel est le meilleur statut à mettre en place pour gérer les coopératives
d'énergie citoyenne. Merci de citer Énergie Partagée, dont on partage aussi le mot d'ordre, ne plus faire des projets sur les territoires, mais mener des projets de territoire. ça me plaît énormément. Vous allez trouver des liens avec, justement, Énergie Partagée, énergie-partagée.org, et puis avec OWAT Citoyen, grâce à Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie.
Oh, mais ce fut un plaisir.
Demain, nous irons dans le Val d'Oise, toujours, pour découvrir la ludothèque mobile de Véteuil, plus de 2000 références. Et puis, cette ludothèque mobile fait partie d'une fédération française des ludothèques, qui est d'ailleurs elle-même en quête d'un nouveau lieu de stockage. Et on parlera aussi avec Jean-Louis Laville, dans le cadre de ses chroniques solidaires, des solidarités précisément. La semaine prochaine, je rappelle, nous serons dans le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et l'Eure ensuite, pour conclure le mois de novembre pour l'incendie de Val d'Oise.